Accent d'Europe, Catherine Roland.
Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il governo.
Bonjour à tous, nous prenons d'abord la direction de l'Italie. Au lendemain de la nomination du Premier ministre Giuseppe Conte, ce juriste totalement inconnu du grand public est désormais chargé de former un gouvernement. La tâche promet d'être ardue car les postes vont se disputer entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles et leur leader explosif, Matteo Salvini d'un côté, Luigi Di Maio de l'autre. Alors que les partenaires européens regardent avec inquiétude ce qui se passe en ce moment à Rome, les Italiens, eux, sont partagés entre espoir d'un changement de cap et peur de l'avenir. À Rome, Eric Sénanc.
Alors que les tractations vont bon train sur la future répartition des portefeuilles dans le gouvernement Conte, les Italiens ne ferment pas les yeux sur les difficultés à venir après 80 jours de vide à la tête du gouvernement. Monica est médecin dans un hôpital du centre de Rome.
On trouvera sûrement une solution car on finit toujours par en trouver une ici. Mais on part d'une situation très difficile, ce n'est pas très rassurant.
En jeu, la répartition des postes de ministres, à commencer par l'intérieur ou l'économie, des postes convoités par Matteo Salvini et Luigi Di Maio, la perspective de voir le chef de l'extrême droite europhobe mettre la main sur la politique migratoire du pays ne rassure guère de nombreux Italiens comme Francesca.
C'est très préoccupant qu'un nom comme Matteo Salvini soit évoqué au ministère de l'Intérieur. On connaît tous les positions de la Ligue sur l'immigration et moi j'ai peur que le mouvement 5 étoiles s'aplatisse devant les idées de ceux qui vont mener la politique migratoire.
Mais avec l'arrivée de Conte, certains n'hésitent pas non plus à saluer l'avènement d'une troisième république. Pour reprendre les mots de Luigi Di Maio, l'Italie surtout peut reprendre sa souveraineté et tenir bon face à une Europe qui l'a souvent tensée, nous explique Alessandro, électeur 5 étoiles.
Je trouve l'ingérence du gouvernement français ou allemand très antipathique sur des questions qui ne les regardent finalement que jusqu'à un certain point. Jamais l'Italie ne se serait permise de commenter ou de critiquer le vote dans notre pays souverain.
L'avocat du peuple, comme s'est présenté Giuseppe Conte, sera de retour d'ici quelques jours au Quirinal avec sa liste de ministres à soumettre au président Mattarella.
In Ireland, it is illegal under the Constitution to access abortion, except where there's a direct and immediate threat to the life as distinct to the health of the mother. This is because our Constitution gives an equal right to life to the unborn and the mother.
Autre pays en pleine effervescence, demain, plus de 3 millions d'Irlandais se rendent aux urnes pour un référendum historique sur l'avortement, un sujet des plus tabous dans cette Irlande encore très catholique, mais qui occupe tous les débats. En clair, il s'agit pour les Irlandais de se prononcer pour ou contre l'abrogation du 8e amendement qui interdit l'avortement, sauf si la grossesse présente un danger pour la vie de la mère. Alors tous les moyens sont bons pour mobiliser dans les deux camps, porte-à-porte, manifestations, affiches choc. Reportage à Dublin de Julien Lagache.
Dans les rues de Dublin, impossible de manquer les badges en faveur du oui. On les voit accrochés à de nombreux sacs ou vestes dans le centre-ville, où une boutique pro-choix a ouvert le temps de la campagne, notamment pour en vendre.
Moi, je porte celui qui dit « Parlez-moi du repeal ».
Lisel Nikiolofan, 36 ans, fait partie des énergiques volontaires qui gèrent la boutique de campagne Repeal the 8, littéralement abroger le 8e amendement. On y trouve les badges donc, mais aussi des pulls Repeal devenus tendance en même temps qu'une façon de porter un message.
Je le porte sans arrêt depuis des semaines, ce qui provoque des remarques. Ainsi, à l'arrêt de bus, quand quelqu'un m'approche et me demande « Dites, qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on gagnera, en engageant la conversation. Parce que beaucoup de gens ignorent ce qui est en jeu. Mais dès qu'on leur raconte ce qui est arrivé à certaines femmes à cause de la loi, en général, ils disent « Mais c'est horrible !» Et je leur réponds « Si vous le pensez, alors c'est que vous devriez voter oui. »
Car au-delà des accessoires de mode, le camp du oui a voulu incarner son combat pour répliquer le succès de la campagne de 2015 en faveur du mariage homosexuel, lui donner un visage à travers des histoires tragiques ou parfois banales, comme celle de Fabiana Mizzoni. La jeune femme de 27 ans est tombée enceinte accidentellement en 2009 et a dû se rendre en secret au Royaume-Uni pour avorter.
À l'époque, je n'avais rien osé dire à mes amis. Encore aujourd'hui, l'avortement est marqué par la honte, la stigmatisation. Mais il y a une prise de conscience que les femmes qui y recourent sont des mères, des sœurs, des amies, des personnes normales dans une situation difficile. Beaucoup se sont exprimées publiquement.
et ça change notre vision des choses, comme lors du référendum sur le mariage gay, où toute une génération s'était mobilisée pour transformer la société.
Pour Fabiana Mizzoni, l'accumulation d'histoires de ces Irlandaises qui sont plus de 3000 chaque année à recourir à l'IVG ailleurs prouve l'inefficacité du 8e amendement. En face, le camp du non au référendum juge que les pro-choix mettent surtout l'accent sur l'émotion. Du coup, lors des soirées porte-à-porte avec son gilet rose, Pascaline Tierney, enseignante en finance, présente les faits différemment.
La campagne pour le oui est trompeuse. Sur le pas de leur porte, les gens nous disent « mais ce référendum n'est que pour les cas extrêmes ». Ils nous parlent de malformations de fœtus, de viol. Et on doit leur dire non, on parle d'avortement à la carte jusqu'à 12 semaines, peu importe la santé du bébé. Il y a beaucoup de désinformation à corriger pour nous.
La parole militante est très encadrée des deux côtés. Beaucoup de bénévoles ont reçu des formations, notamment pour répondre aux journalistes. Du côté des pro-vie, on parle surtout de chiffres, les mêmes que ceux placardés sur toutes les affiches de campagne. Katie Asco a sillonné le pays avec ce message.
La plupart des gens n'ont même pas vu le projet de loi. Or, le gouvernement propose clairement un régime plus extrême que celui du Royaume-Uni où une grossesse sur cinq est stoppée. Il faut se demander si on veut voir ça ici et en cas de doute, il faut voter non.
À 21 ans, cette militante est devenue porte-parole officielle et l'un des visages de cette jeunesse du non, dont l'un des slogans est « Rejoignez la rébellion ». Sympathisant du mouvement, Ben Scallan, étudiant en informatique, dénonce un référendum voulu par l'establishment.
La plupart des gouvernements occidentaux, notamment l'Irlande, sont incroyablement biaisés envers les opinions qu'ils ne partagent pas parce qu'elles ne sont pas cool ou populaires. Prenez Google qui a décidé de bannir les publicités pro-vie en ligne, sachant que les médias sont pro-choix. C'est sans précédent.
Un discours anti-élite qui s'est développé sur la fin de la campagne où le ton s'est durci entre les deux camps avec des accusations mutuelles de désinformation ou de censure, révélateur aussi d'une nervosité palpable à l'approche d'un scrutin jugé historique.
Let's do it. Together. Come home to vote yes to repeal the Eighth Amendment.
Together.
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 Et pour engranger le plus de voix possible, les militants du oui au référendum qui se présentent comme pro-choix encouragent les Irlandais expatriés à venir voter avec le slogan, vous l'avez entendu, Home to Vote. 40 000 Irlandais vivant à l'étranger ont ainsi le droit de voter, mais pour cela, ils doivent rentrer au pays. Marie Billon.
Les selfies dans les trains et les avions commencent à fleurir sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Home to Vote, à la maison pour voter. Beaucoup voyagent avec un t-shirt sur lequel est écrit Repeal, en faveur du droit à l'avortement. Seuls les Irlandais ayant quitté le pays depuis moins de 18 mois peuvent se prononcer sur ce référendum, mais ils sont nombreux à payer des centaines d'euros et à faire des milliers de kilomètres pour rentrer. Une jeune femme a écrit sur Twitter « Je fais 5169 miles de Los Angeles à Dublin en pensant à toutes ces Irlandaises qui ont dû voyager pour avoir accès aux soins qui leur étaient refusés dans leur propre pays. » Une maman félicite son fils sur les réseaux sociaux. Étudiant fauché, il utilise l'argent qu'il a reçu à son anniversaire pour acheter un billet d'avion. Pour aider les jeunes qui n'ont même pas ses fonds pour voyager, les syndicats étudiants d'Oxford et Cambridge notamment offrent 110 livres à ceux qui veulent rentrer chez eux pour voter oui. L'entraide est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Beaucoup proposent de conduire les votants aux aéroports par exemple, ou bien de faire du covoiturage. Be my yes, soyez mon oui, est aussi un autre mot-clé très populaire. Les expatriés qui ont perdu leur droit de vote proposent de financer en totalité ou en partie le voyage de celui ou celle qui est prêt à aller voter en faveur du droit à l'avortement. En 2015, lors du référendum sur le mariage gay, la campagne Home to Vote avait aussi été très populaire. Cette fois-ci, les sondages montrant que les résultats pourraient être serrés, les expatriés se sont à nouveau largement mobilisés. Ceux qui sont contre le changement de législation aussi ont fait savoir qu'ils allaient rentrer chez eux pour voter non en utilisant le même mot-clé. Ils sont moins présents sur les réseaux sociaux, mais espèrent aussi que leur effort fera pencher la balance.
The GDPR, or General Data Protection Regulation, is the future European legal framework for data protection.
Les discussions avaient commencé en pleine affaire Snowden, et voilà que la nouvelle réglementation sur la protection des données arrive quelques mois à peine après le scandale Facebook Cambridge Analytica. C'est dire si ce texte est attendu. La RGPD entre en vigueur dans toute l'Union européenne donc ce 25 mai. Une avancée majeure sur la voie de la protection du citoyen et de sa vie privée. Le texte prévoit que le consentement doit être obtenu par les entrepreneurs d'Internet de manière simple et claire, faute de quoi les acteurs économiques s'exposent à des sanctions colossales, jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour mieux comprendre ce que l'on peut attendre de ce texte, Frédéric Lebel a interrogé l'eurodéputée Viviane Reding. En 2012, lorsqu'elle était commissaire à la justice et aux droits fondamentaux, c'est elle qui a initié les discussions. Frédéric Lebel lui a demandé si ce règlement allait bouleverser les pratiques, alors que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, était auditionné justement par le Parlement européen ce mardi.
Maintenant, il vient doux comme un lapin, mais c'était bien lui qui avait envoyé des douzaines de lobbyistes haut payés pour freiner, pour que cette loi ne voie le jour. Et on voit aussi que dans l'application que Facebook fait de la loi aujourd'hui, il y a pas mal de lacunes. Donc, on n'est pas du tout dans l'application correcte d'une législation européenne. Et même si on est grand, et surtout lorsqu'on est grand, il faut appliquer la loi quand on veut faire du business en Europe.
Très concrètement, ce règlement va-t-il révolutionner les usages et peut-être les entreprises se rendent compte aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus faire sans cette législation, sans cette preuve de bonne foi?
Oui, et pas seulement les grandes entreprises américaines, aussi nos entreprises européennes qui doivent montrer que les données personnelles qui leur ont été confiées, elles sont en lieu sûr dans cette entreprise, donc ils doivent les préserver, ils doivent faire de sorte à ce que elles puissent pas être volées, ils doivent s'engager à ne pas les vendre, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un business qui vend des données personnelles sans que le propriétaire de ces données personnelles ne soit au courant. Et nous prévoyons dans cette réglementation européenne des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global d'une entreprise. Voyez-vous, si le scandale Cambridge Analytica, Facebook, était arrivé le 26 mai, cela aurait coûté des milliards d'euros à Zuckerberg pour se remettre en ordre avec la justice européenne.
Oui, on peut imaginer que les entreprises ont peur de ces sanctions qui vont être très fortes. La question, c'est bien sûr les autorités de régulation. Est-ce qu'elles sont assez fortes dans chaque pays européen pour contrôler ce qui se fait?
Vous avez en France la CNIL, qui est un modèle du genre, et je n'ai aucun doute que la CNIL va faire son travail, comme par le passé, d'une façon très stricte. Et les cours de justice nationales aussi seront responsables pour appliquer ces législations. Et il y a une nouveauté dans cette réglementation, c'est une sorte de recours collectif. Plusieurs individus peuvent se mettre sous la protection des organismes de protection des données ou des organismes de protection des consommateurs, et celles-là vont au nom des citoyens devant la Cour.
Vous voyez déjà qu'est-ce qui ne va pas dans la manière dont Facebook applique la réglementation européenne?
Eh bien, il faudrait qu'il y ait un accord efficace et un consentement compris de la part du citoyen. Et c'est pas une sorte de soit tu fais ce que je veux, soit tu ne reçois plus mon service qui est en accord avec la loi. Donc il y aura encore beaucoup de cas devant la justice, je suppose, avant que les mastodontes n'appliquent la législation européenne. Mais ils n'auront plus le choix, parce que les sanctions sont trop importantes et leur feront trop mal. En fin de compte, ils vont appliquer la loi européenne.
Vous pensez que l'Europe se pose en modèle et est-ce qu'elle va influencer vertueusement d'autres pays dans le monde?
Elle le fait déjà. On est en train de voir que notre règlement sur la protection des données est copié en tant que loi nationale dans certains pays en dehors de l'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Argentine, la Corée du Sud, pour ne citer que quelques-uns. Les États aussi sont en train de se rendre compte que s'ils n'ont pas un système de protection des données personnelles chez eux, sur leur territoire, eh bien, il sera difficile pour leurs entreprises d'avoir accès au territoire européen. Donc, cette législation est en train de créer des normes internationales par simple besoin qu'ont les entreprises du monde entier d'utiliser le territoire européen et son grand marché.
L'eurodéputée luxembourgeoise Viviane Reding avec Frédéric Lebel. En France, les entreprises ont dû s'adapter à cette législation très contraignante, même si de nombreuses règles existaient déjà dans la loi informatique et liberté de 1978. La CNIL, l'autorité de régulation, a pendant plusieurs mois organisé des sessions de formation. Frédéric Lebel a assisté à l'une d'elles, à Station F, le plus grand incubateur européen situé dans le sud de Paris.
Il n'y a pas besoin de paniquer ou de faire peur aux gens nécessairement. Donc on est là aujourd'hui pour vous rassurer aussi, normalement.
Cabinet de conseil, assureur, développeur dans le domaine de la santé, une dizaine d'entrepreneurs sont venus prendre in extremis un cours de rattrapage ou de mise à niveau. Pour la plupart, ils n'ont pas lu intégralement le règlement européen et pour cause, Geoffrey Delacroix du laboratoire d'innovation de la CNIL.
En gros, si on l'imprime, il fait une bonne centaine de pages, donc c'est un bon petit roman déjà et c'est du langage juridique, il aborde des principes qui sont tout de même assez compliqués, même techniques, parce qu'il se met à parler d'anonymisation, de pseudonymisation, c'est pas des choses qu'on utilise dans la vie courante, donc il y a un jargon technique et juridique qui est quand même important, il faut le reconnaître. C'est pour ça que nous, notre travail, il est essentiellement sur l'idée que les gens n'ont peut-être pas beaucoup de chances d'arriver à s'en sortir s'ils sont tout seuls face à ce document, donc on essaye de l'expliquer et de faire de la médiation.
On commencera donc avec le B.A.B.A. de la RGPD. C'est quoi une donnée personnelle ?
Des données qui vont être des traces de localisation, des traces de suivi d'activité, sont des données à caractère personnel, si vous voulez, même si vous n'avez pas le nom et le prénom de la personne. C'est-à-dire qu'on a parfois des gens qui nous disent « moi j'ai anonymisé mes données parce qu'ils ont retiré les identifiants directs », mais en fait, dans notre domaine, c'est pas ce qu'on appelle l'anonymisation.
Avec ce texte européen, on renverse la charge de la preuve. C'est désormais à l'entreprise de prouver non seulement sa bonne foi, ses bonnes pratiques, mais surtout qu'elle a informé correctement l'usager. Éric Boucher, ingénieur conseil de la CNIL, explique.
Là, on est sur le RGPD, sur une logique où le consentement, c'est un acte positif. Donc, on a informé la personne dans des termes clairs, simples, et elle va consentir en cochant une case. C'est pas 40 pages de CGU à dérouler sur un écran de smartphone, hein, soyons très clairs.
Dans chaque entreprise, il faudra désormais un délégué à la protection des données. Un DPO pour ceux qui veulent continuer à se perdre dans les acronymes. Les sanctions annoncées peuvent être énormes. Dans la salle, certains ouvrent de grands yeux. Va-t-il falloir tout de suite externaliser cette révolution ou peut-on s'en sortir seul ?
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on publie tous ces conseils sur le site de la CNIL.
Voilà des mois que la CNIL multiplie les formations en réel, mais aussi par le biais de son site, avec des tutos et des logiciels. Le régulateur public se présente comme un garde-fou face aux arnaques qui fleurissent un peu partout sur la toile.
Un marché qui existe depuis longtemps, le conseil en organisation, le conseil en sécurité informatique, etc. C'est vrai que là, on a un effet d'aubaine avec le règlement européen. En même temps, c'est bien, ça veut dire que la donnée personnelle devient un élément clé de la conformité des entreprises. Forcément, ça crée aussi pas mal de buzz, on entend pas mal de choses diverses et variées. Le vrai problème, c'est que pour l'instant, la CNIL ne délivre pas ou pas encore de labellisation RGPD, compliance GDPR. Et donc, il faut être surtout très prudent par rapport à ceux qui vous vendent des labels. Ce seront jamais que des labels privés, pas de blanc-seing de la CNIL, même si dans leur démarchage, ils ont repris le logo ou même des parties de notre site. C'est souvent ça qu'on voit, hélas.
Alexis est ingénieur dans une petite start-up de 9 employés. Il n'est pas sûr de tout pouvoir boucler avant le 25.
Stressant, disons que ça arrive vite, puis étant une start-up, c'est vrai que c'est pas forcément facile de mettre tout ça en place. Il faut prendre le temps de le faire, on n'a pas forcément le temps de le faire. Mais de toute façon, il faut le faire, c'est la loi, donc on va s'y mettre. Mais c'est vrai que c'est pas du plus simple, quoi. Après, tant mieux pour les utilisateurs finaux derrière.
Les plus petits acteurs d'Internet comptent bien ne pas être les premiers dans la ligne de mire du régulateur, à juste titre, avec un effectif de 200 personnes et un budget à l'identique. La présidente de la CNIL estime qu'elle a déjà atteint un point de rupture.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez aussi nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook.